La 9e journée d'études aura lieu le 16 juin en présence d'Olivier Jouvret, qui est déjà dans la salle et qui sera là lundi prochain pour le thème... je vais prendre le micro.
Cela sera actif. Mais...
Non, ça ira, je prends le dictaphone.
Oui.
Non, mais je pense que même sans micro, ça devrait suffire.
Il n'y en a pas l'autre, là ?
Non, mais ça ira. Donc, la 9e journée d'études aura lieu le 16 juin prochain sur enseignement et bande dessinée. Il y a déjà des affiches un peu partout dans l'ENS. La 10e journée d'études aura lieu en septembre sur la question de la traduction de la bande dessinée. Et nous finirons nos activités les 8 et 9 octobre prochains par un grand colloque sur la question du corps, de la représentation du corps dans la bande dessinée. Ce laboratoire junior a été fondé par deux historiens, médiévistes de surcroît. Pourtant, jusqu'à maintenant, Aymeric et moi avons été relativement raisonnables, puisque toutes nos journées ont été pluridisciplinaires, avec des thèmes extrêmement variés et peu historiques. On a parlé de la ville, de la violence, de l'enseignement, du numérique, de la nature, du genre ou de la vulgarisation, avec à chaque fois des chercheurs venus de disciplines extrêmement diverses. Cette journée, bien que consacrée au Moyen-Âge, ne dérogera pas à la règle, puisque seront présents aujourd'hui à la fois des historiens, donc Georges Bischoff à ma gauche, professeur d'histoire médiévale à Strasbourg, Geneviève Burer-Thiaille devant moi, professeur d'histoire médiévale à Paris, et des spécialistes de littérature médiévale, donc Alain Corbellari, qui aurait dû être présent et qui est professeur aux universités de Neuchâtel et de Lausanne, Florence Play-Nicolas, qui aurait dû être présente et qui est également maître de conférence à Bordeaux-Montaigne, ou Beate Langenbrouwer, donc, enfin de littérature moderne, Clotilde Touzet, qui, elle, par bonheur, a pu venir, et qui est doctorante à Orléans. Deux philosophes avaient également été conviés, Didier Ottaviani et Véronique Dequet, qui auraient également dû être ici, mais pour des raisons logistiques, sont en ce moment pour l'un en Angleterre, l'autre au Brésil, et donc ne peuvent pas être là. Seront donc également présents non seulement des universitaires, mais comme à notre habitude, également des acteurs du monde de la bande dessinée, puisque cet après-midi, nous accueillerons un dessinateur et un éditeur. Dans le cadre d'un autre laboratoire junior, Imagis, j'avais déjà organisé, il y a 3 ans, une journée d'études sur les rapports entre histoire et bande dessinée, qui avait permis de faire le point sur l'intérêt des universitaires pour la bande dessinée historique. En cette période anniversaire de la Première Guerre mondiale, la bande dessinée est convoquée de manière extrêmement importante. Et si vous avez ouvert un journal télévisé ou un journal sur Internet depuis 6 mois, vous ne l'avez pas loupé. Exposition, notamment autour de Notre Mère la Guerre, ce que nous avait expliqué Chris ici même il y a en novembre dernier. Colloques universitaires, conférences, monuments. Il y a eu un projet de fresque à la BNF par Tardy. Bon, le projet a échoué, mais en tout cas, c'était un projet qui avait été lancé. La bande dessinée a aujourd'hui un important écho médiatique. De manière générale, la bande dessinée est désormais reconnue pour sa capacité à mettre en image les témoignages. On pense bien sûr à Maus, la bande dessinée Maus. Et la période contemporaine est extrêmement représentée dans la bande dessinée et fait l'objet de nombreuses études universitaires. L'époque moderne sert de cadre à un nombre beaucoup plus restreint d'albums de bande dessinée, mais on compte néanmoins 2 séries majeures qui ont marqué leur temps, Les Passagers du Vent de Bourgeon et L'Épervier de Patrice Pellerin. Les études universitaires sont, sur la période moderne, sont quasiment vierges, à l'exception d'un colloque que nous avions organisé ici même il y a 2 ans et demi et qui sera publié normalement pour les rendez-vous de l'Histoire de Blois en octobre prochain chez l'éditeur Cartala sur ce sujet. L'Antiquité a davantage été utilisée par les auteurs de bandes dessinées. On pense évidemment à Astérix d'une part et à Alix d'autre part sur un registre très différent. À Murena, la bande dessinée de Dufaux et du regretté de Laby que nous avions reçu à Lyon 3 il y a 1 an, juste avant son décès, pour la bande dessinée contemporaine. Un colloque extrêmement ambitieux, organisé par Julie Gallego, s'est tenu à Pau en novembre 2011 et sera bientôt publié. Venons-en aux faits, qu'en est-il du Moyen-Âge en bande dessinée et des études universitaires sur le Moyen-Âge en bande dessinée ? Peu de séries ont vraiment marqué leur temps et marqué profondément les esprits. Deux séries classiques, Prince Vaillant de Harold Foster, Outre-Atlantique, dès 1937, avec une bande dessinée importante en son temps, adaptée au cinéma, etc. Et Le Chevalier Ardent, bande dessinée franco-belge cette fois-ci, 20 ans après, 1957, dans Tintin. Ces deux séries ont rencontré un succès important et ont ancré dans l'esprit une espèce de représentation particulière de la figure du chevalier. Mais ces séries sont aujourd'hui relativement oubliées, à part des collectionneurs ou des spécialistes, elles sont relativement oubliées et connaissent peu d'écho. Pour la bande dessinée plus récente, on peut citer Les Compagnons du Crépuscule, bande dessinée sur laquelle nous reviendrons tout au long de la journée parce que c'est une bande dessinée qui a vraiment à marquer son temps. Les Compagnons du Crépuscule de Bourgeon, Gêne de Jacques Martin, Vasco de Gilles Chaillet, qui se passe à Venise à la fin du Moyen-Âge, ou récemment, une bande dessinée qui est une vraie réussite, Le Trône d'Argile de Jarry Richemont et Théo. Mais toutes ces séries ont une aura relativement limitée. Ouvrez un manuel scolaire et vous trouverez du Alix, vous trouverez du Jacques Martin. Vous trouverez du Astérix pour la période antique, vous trouverez du Tardi pour la période contemporaine. La guerre de 14 est étudiée par le prisme de Tardi. La Seconde Guerre mondiale est étudiée par le prisme de Mauss dans les manuels scolaires. Voire, vous trouverez de l'Épervier pour la période moderne, mais vous ne trouverez aucune bande dessinée pour la période médiévale. L'imaginaire médiéval passe aujourd'hui, en tout cas en France, plutôt par le prisme du cinéma. Quand on parle du Moyen-Âge, on pense à Indiana Jones par exemple, mais on ne pense pas à une bande dessinée en particulier. Ces bandes dessinées médiévales peuvent être classées selon Bernard Ribémont, donc que nous avions également invité, mais qui n'a pas pu venir, mais sa doctorante est là pour le représenter. Bernard Ribémont a proposé une classification de l'ensemble du corpus de BD médiéval en cinq catégories que je vais reprendre rapidement pour essayer de classifier un peu ces différentes bandes dessinées. Il parle d'ailleurs de bande dessinée médiévalisante, le terme faisant problème, et nous en reparlerons cet après-midi, je pense. Alors, première catégorie des bandes dessinées médiévalisantes, selon Bernard Ribémont. Tout d'abord, la bande dessinée enfantine, qui est tournée directement vers les enfants, qui ne nécessite aucun fond culturel pour être comprise, et qui raconte des histoires enfantines facilement compréhensibles. Et on pense directement à Joan et Pierre-Louis. Parce que quand on pense aux Schtroumpfs, on n'imagine pas que les Schtroumpfs sortent de Joan et Pierre-Louis, et Joan et Pierre-Louis est dans un univers médiéval. Ce qu'on n'a plus en tête quand on pense aux Schtroumpfs, mais les Schtroumpfs sont des personnages médiévaux, entre autres. À côté de cette bande dessinée destinée aux enfants, on a une deuxième catégorie qui est la bande dessinée éducative. Bande dessinée qui sert à enseigner l'histoire. Ou la littérature, aux enfants ou plus généralement aux étudiants. Troisième catégorie, la bande dessinée historique. Avec trois sous-genres. Donc la bande dessinée historique, ce sont des albums qui, autant au niveau du texte qu'au niveau de l'image, se veut un espace de vraisemblance, voire même de vérité. Des faits historiques sont rappelés, ils peuvent même servir de point de départ au récit, et les costumes, l'architecture, les dialogues, tout ça veut être vrai, veut être documenté. On parle donc de bande dessinée historique. Bernard Ribémont distingue trois sous-catégories. Première sous-catégorie, la bande dessinée historico-épique. La bande dessinée historico-épique sont donc des BD sérieuses qui entraînent le lecteur dans des séries d'aventures variées qui sont calquées sur le modèle de la chanson de geste tardive. Et ça, en fait, c'est toute la série Vécu chez Glénat. Voilà, il y a eu le magazine Vécu et puis il y a eu toute une série de bandes dessinées chez Glénat. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les auteurs qu'on reçoit cet après-midi sont aussi chez Glénat, c'est dans une tradition assez ancienne. On a donc cette première sous-catégorie, la bande dessinée historico-épique. Deuxième sous-catégorie, la bande dessinée historico-romanesque. Là, on n'est plus directement dans du roman de chevalerie médiévale. Ça s'inspire beaucoup des grands cycles du XIIIe siècle, comme le Lancelot en prose. On a dans cette bande dessinée un peu plus de fantaisie, un peu plus de merveilleux, mais dans des limites qui sont les limites de ce que l'on pourrait retrouver dans les textes médiévaux. Enfin, troisième sous-catégorie, l'historico-onirique. Le type même de cette bande dessinée, ce sont les Compagnons du Crépuscule de François Bourgeon. On y rencontre certes un souci extrêmement minutieux du détail historique, avec une documentation importante, mais tout cela est au service d'un imaginaire moderne, débridé, et d'une indéniable fantasmagorie, avec un aspect érotique souvent important. Quatrième catégorie, ce que Bernard Ribémont appelle la BD médio-fantasmatique, qui est sans doute la plus répandue, parce qu'elle permet la cristallisation des fantasmes modernes, des scénaristes et des dessinateurs modernes, ainsi que la mise en œuvre d'une esthétique et de thématiques contemporaines, qui s'inscrit parfois dans la science-fiction. Donc là, à l'écran, vous avez Torgal. Plus généralement, on parle ici de la BD d'Heroic Fantasy. On est dans un tramage généralement très confus, avec des événements médiévaux, des événements réalistes, médiévaux, des détails historiques, parfois très approximatifs, un érotisme débridé pouvant aller jusqu'à la pornographie, et on a un mélange de clichés gothiques avec des sorcières, des bûchers, des loups, qui peuvent être des loups-garous. On est dans un imaginaire extrêmement débridé, qui ne se veut pas rigoureux, qui ne se veut pas historique. Enfin, cinquième catégorie et dernière catégorie, la BD médio-dérisionnelle, c'est-à-dire des auteurs qui reprennent un ensemble d'éléments de la littérature ou de l'histoire du Moyen-Âge pour offrir une vision décalée, parfois délirante, et c'est ce décalage qui produit le comique. Alors là, j'ai mis à l'écran Robin Dubois, qui est une série qui marche bien, mais voilà, on est dans cette bande dessinée qui ne se veut pas du tout une bande dessinée réaliste et qui veut avant tout susciter le rire. Néanmoins, ces cinq catégories sont extrêmement poreuses et de nombreux albums se trouvent à la croisée de genres très différents. Les médiévistes, qu'ils soient historiens, philosophes, linguistes ou littéraires, se sont intéressés à cette problématique pour la période médiévale et on note différents articles scientifiques, notamment sous la plume de deux auteurs phares qui sont d'une part Bernard Ribémont, qui n'a pas pu venir, et d'autre part Daniel-Alexandre Bidon, qui a organisé une très belle exposition il y a 3 ans à la Tour Jean Sans Peur, qui s'appelait « Le Moyen-Âge dans la bande dessinée ». Tous deux ont été invités et n'ont pas pu se libérer. D'autres noms reviennent fréquemment, celui de Florence Plé-Nicolas et celui d'Alain Corbellari, qui eux aussi auraient dû être présents, mais qui n'ont pas pu être présents pour des raisons de train. Si on refait un rapide panorama de ce qui a été fait d'un point de vue universitaire, on a un entretien en 1987 avec Gilles Chaillet dans la revue Médiévale, où Gilles Chaillet, donc l'auteur de Vasco, un entretien de 4 pages où on lui demande un peu d'expliquer pourquoi il fait la BD médiévale, comment est-ce qu'il arrive à la BD médiévale, etc. Mais c'est pas une étude, c'est un entretien. Le premier article date de 1990 de Alain Chante, Le grand syncrétisme du Moyen-Âge en bande dessinée. Alain Chante qu'on a reçu ici même il y a 1 mois pour Genre et bande dessinée. Mais l'essor principal des études date des années 2000, avec 2 colloques importants, les 2 dirigés par Alain Corbellari, l'un en 2001, Le Moyen-Âge par la bande, l'autre en 2014, qui a été édité il y a 1 mois, qui s'appelle Le Moyen-Âge en bulle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont quasi uniquement, à l'exception de Daniel-Alexandre Bidon, ce sont quasi uniquement des littéraires, soit des historiens de la littérature, soit des linguistes, qui se sont intéressés à cette thématique. Cette thématique n'a pas été jugée suffisamment intéressante ou suffisamment sérieuse, je ne sais pas, par les historiens, et très peu d'historiens s'intéressent à la représentation du Moyen-Âge en bande dessinée. Et je laisse justement la parole à un historien, Georges Bischoff, professeur d'histoire médiévale à Strasbourg, qui sera le seul historien de la matinée à parler de bande dessinée. Alors, lance le...